Radio Grand Ciel présente Tournepage, une émission réalisée avec Claude Cazal. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, nous tournerons les pages d'un livre de Michael D. O'Brien, Le Fou de New York, paru aux éditions Salvator. C'est un ouvrage qui est à la fois de notre époque et hors du temps. Un roman sur l'amitié, l'amour, l'espérance, le sens à donner à sa vie, après l'épreuve sur la résilience. Alors, je sais, Claude Cazal, que vous avez bien aimé ce livre. Pourquoi ?
Alors, effectivement, ce livre est tout à fait amusant, intéressant, il est prenant. Et, ma foi, on se laisse entraîner dans toute cette aventure, toute cette histoire un peu rocambolesque, c'est certain. Et cette histoire est conduite, ou ce livre est conduit un peu comme une énigme, et au fil du temps et au fil de la lecture, on finit par de rebondissement en rebondissement, par découvrir un peu l'intrigue et le fil de toute cette histoire. À vrai dire, c'est le personnage, les deux, il y a deux personnages principaux. Il y a un géant qui est très attaché à s'occuper des autres et qui s'intéresse aux autres, et un vrai géant, puisqu'il est décrit comme mesurant 2,16 m, en ayant toute une carrure imposante qui en intimide à tous. Et ce géant, donc, s'intéresse un jour, aperçoit quelqu'un qui est en disparition, comme il est dit par un policier, à savoir qu'il est SDF, clochard, avec une couverture sur le dos, et il est derrière une fenêtre dans un bâtiment abandonné. Le géant qui regarde ce bâtiment en passant l'aperçoit derrière le carreau et du coup s'y intéresse et s'en occupe.
Et ça se passe à quelle époque ?
Alors ça se passe fin du 20e, début du 21e, et quelque part, à un moment donné, ce géant se penche et s'intéresse à cet homme qui est là, derrière son carreau, complètement perdu, qui est en voie de disparition, et il va le chercher, il va voir, évidemment cet homme est complètement effrayé, atterré, et s'imagine qu'il va être étranglé, mangé par ce géant, tellement il a peur. Il est vraiment dans un état épouvantable de délabrement psychologique, complètement heurté. Que s'est-il passé ? C'est ça ce que le livre va nous faire découvrir au fil des lignes. Alors, cet homme, il a subi visiblement un énorme choc émotionnel, on ne sait pas lequel, et il va falloir lui faire retrouver la mémoire, puisqu'il est devenu amnésique, il a tout oublié, et au fil des pages, on va nous apprendre et on va découvrir un peu la vie de cet homme. On va l'aider à redécouvrir le géant, comme dans un roman policier, va d'indice en indice remonter le fil du temps et aider cet homme à se reconstruire. Quand le géant le rencontre, il a 20 ans tout de même. Et le choc émotionnel s'est passé 7 ans, 8 ans avant. Donc il y a eu 8 années où cet homme est descendu aux enfers et donc il faut lui faire un cheminement inverse. Alors ce qu'il y a d'amusant aussi dans ce livre, c'est que de loin en loin, on y trouve des espèces de maximes philosophiques, des traits qui s'intéressent à la vie aussi, à la vie courante. Alors c'est un peu de la philosophie peut-être de café du commerce par moment, mais néanmoins ce sont des vérités qui parfois sont très amusantes et intéressantes à dire. Alors j'ai trouvé par exemple dans ce genre-là un passage qui donne la définition du téléphone portable. Parce que malgré tout, il est question de téléphone portable. Alors c'est assez amusant, c'est assez original, mais c'est bien vu, je trouve. Voilà ce qui en est donné, ou ce que le personnage principal...
Donc le géant.
Alors là, c'est pas le géant, en l'occurrence,
c'est celui qui a perdu
la mémoire, qui au fil du temps se retrouve à un moment donné seul. Il a déjà progressé. Il se retrouve seul à un moment dans Manhattan, puisque ça se passe à New York principalement, et c'est lui le fou, absolument,
voilà.
Et il se promène dans la rue.
Le héros, en quelque sorte.
C'est le héros, oui, si on veut, oui, si, c'est une, oui, c'est le héros. Et donc il se promène, et tout d'un coup, il y a une jeune femme qui sort d'un immeuble au moment où il passe devant. Et il ne se retourne pas, il est tout de même toujours dans cette psychologie atterrée, effrayée par la moindre chose. Mmh. Et derrière lui, il entend cette femme qui commence à parler, à lui dire « je t'aime, mais si », enfin tout un tas de mots très, très aimables. Mais il se demande ce qu'elle
lui
veut.
Lui.
Il croit que c'est à lui que ça s'adresse. Mmh. Et finalement, bon, à un moment donné, il tourne dans une rue et il la voit qui continue tout droit avec un téléphone à l'oreille. Et à ce moment-là, il dit « j'ai remarqué cette norme sociale sur les trottoirs de New York. Les gens utilisent leur téléphone portable comme si ces instruments étaient des gommes magiques effaçant les autres créatures vivantes. En appuyant sur un bouton, l'humanité se dissout dans le non-être ou bien, au mieux, se gèle en abstraction. Les conversations les plus intimes sont diffusées publiquement sans égard pour qui peut être en train d'écouter, consentant ou non. Dans une rue animée, il y en a tellement que vous n'êtes jamais tout à fait sûr de savoir quelle phrase appartient à quel autre fragment qui flotte librement. » On est bien dans ce phénomène de la téléphonie mobile qui fait irruption à chaque instant dans notre vie et qui, effectivement, quand on décroche, nous isole du reste du monde. C'est très curieux. Et en plus, avec une indiscrétion terrible.
Oui, bien bon. Sûr.
Donc voilà le genre de remarque ou de philosophie qui arrive un peu tout du long du livre.
Alors revenons à notre
chose,
héros.
Dans ce livre qui est intéressante et qui est amusante et qui est passionnante, c'est qu'il nous fait découvrir la ville de New York sous beaucoup d'aspects. Et ça, c'est très amusant. Il nous fait nous promener au Canada.
Oui.
Il nous fait nous promener dans le Vermont. Mais aussi, il nous fait nous promener à Paris. Et à chaque phase, c'est la découverte d'une partie du personnage, parce que bon, bah, y a des indices qui les emmènent dans le Vermont, il y a des indices qui les conduisent au Canada, et à un moment donné, notre héros a une phase de sa vie qui se passe à Paris, où il découvre ce qu'est la femme d'ailleurs, il se prend d'amitié et d'amour pour une jeune femme parisienne qui elle-même d'abord se tourne vers lui et l'attire un peu dans ses filets, je dirais.
Mmh.
Elle est un peu révoltée, bon, elle l'entraîne. Bon, puis finalement, ça se finit par une rupture, aimable, mais rupture tout de même, et il revient aux États-Unis. Donc ça, c'est un peu la découverte de la vie parisienne, de la vie intellectuelle, de la vie d'artiste, parce qu'à l'époque, il est artiste à ce moment-là.
Et de l'amour.
Et de l'amour aussi, absolument. Ou de cette forme d'amour, d'amour entre adultes. Donc c'est tout à fait amusant pour Paris. Voilà donc différents aspects du livre et ce à quoi il nous entraîne. Alors il y a aussi d'autres passages où on parle de la liberté, et pourquoi de la liberté? Parce qu'il y a la statue de la liberté d'un côté, parce que de l'autre côté, notre personnage principal se prend pour Goya, se prend pour le Merle qui est sur un des tableaux de Goya enfant, Merle attaché par une ficelle, justement c'est la privation de liberté, de l'autre côté la statue de la liberté, et donc on parle un petit peu de la liberté. Par exemple, dans le livre, il y a un petit passage, « À mes pieds, se trouve une corneille asiatique qui picore un morceau de papier. L'une de ses pattes est attachée par une ficelle que je tiens légèrement, mais fermement, entre mes mains. Oui, voici ce dont traite la peinture, l'illusion de la liberté. Assis à côté de mes pieds, trois chats observent avec intensité la corneille, détail qui me dit qu'il a été peint un jour où j'étais déprimé. » Donc là aussi, c'est le personnage principal qui se sent et se voit en personnage de Goya, puisqu'il avait perdu la mémoire, il se prend pour Francisco Goya à un moment donné. Si on revient au personnage principal, Dieu merci, à mi-distance du livre, il retrouve la mémoire, et à ce moment-là, il raconte quelle a été son enfance, et qu'est-ce qui s'est passé, et qu'est-ce qui a créé cette rupture épouvantable qui lui a fait perdre la mémoire.
À savoir.
Et à la fin, un événement majeur, mais je ne vous le dirai pas parce qu'il faut absolument que vous le découvriez vous-même, sinon, au fil de la lecture, sinon ça retire tout le sel du livre.
Voilà,
je dis,
donc
c'est trop facile.
on ne sait pas.
Un roman policier.
C'est un peu un roman policier.
C'est une sorte de roman policier sans cambrioleur ni terroriste. Hein. C'est la mémoire qui a été cambriolée par un événement, chamboulée, et qu'il faut recouvrer. Donc
c'est un
roman un peu bizarre.
Bizarre, mais quand même, il y a amitié donc entre ces deux hommes.
Très grande amitié, parce que
grâce à cette amitié qu'il va recouvrer en quelque sorte la
absolument.
Mémoire.
Absolument. Et ce géant passe beaucoup de temps. Ça dure plusieurs mois pour reconstruire la mémoire de cet homme. Ça prend plusieurs mois, et le géant passe toute son énergie ou la plupart de son énergie à retrouver des indices, à recréer un environnement, à remettre en condition cet homme pour que petit à petit, de petit choc en petit choc ou de petite découverte en découverte, il se reconstruise et il retrouve sa mémoire.
Donc c'est
vraiment une amitié très forte.
Une renaissance de la vie.
Absolument. Alors pourquoi ? Parce que ce géant, suite à un accident, s'est trouvé orphelin.
Oui.
Il a grandi. Il s'est reconstruit lui-même. Et quand il voit cet homme, pareil, il cherche à le reconstruire. Et effectivement, dans le livre, cet homme perd son père, sa mère et son frère. Donc ça, c'est le choc. Mais la raison de ce choc et pourquoi, c'est ça qui est amusant à découvrir.
Oui. Donc en fait, l'amitié, l'amour sont omniprésents. On peut dire qu'il y a presque une dimension spirituelle dans cet ouvrage.
Il y a une espèce de dimension spirituelle, d'une certaine manière. Le géant est là, il aide cet homme à ouvrir tous les tiroirs de sa mémoire un par un, et Dieu sait que c'est lent. Alors, dans le livre aussi, il y a beaucoup de symbolique. Il y a un moment où notre héros découvre dans l'appartement du géant un meuble avec beaucoup de tiroirs où il y a énormément de choses, et il passe quasiment la journée à ouvrir les petits tiroirs un par un.
Oui.
De ces tiroirs, je dirais, comme on a pu en voir chez nos grands-parents, des petits tiroirs où on mettait les clous, les boutons. Et donc il passe son temps et sa journée à ouvrir les tiroirs un par un et à inventorier ce qu'il y a dedans, tellement il y a de choses. Donc c'est très symbolique.
De sa
quand
tête
on pense
aussi.
De sa tête qu'il essaye de reconstruire aussi en tirant les fils un par un. On est dans ce genre de choses.
Hein. C'est...
Alors il est très bien écrit, il est très riche en vocabulaire. Et il se lit avec beaucoup de facilité, moi, je trouve, ce livre.
Oui,
c'est très plaisant.
On a envie, je crois que nos auditeurs vont avoir envie de le lire. Et on peut dire que ce fou de New York, il n'est pas si fou que ça, finalement.
Il n'est pas si fou que ça, absolument pas. Et on découvre qu'il avait une vie, pendant les 7 à 8 ans, quand il est descendu aux enfers, il a eu une vie d'artiste, il a eu une vie... mais en dégringolant, parce que n'ayant plus de raison d'être, apparemment, et en ne comprenant pas l'intérêt, alors qu'à un moment, le géant, à plusieurs reprises, lui dit mais non, tu n'es pas un parasite de la société, mais non, tu existes parce que je suis ton ami.
Mmh.
Et là aussi, l'amitié est très forte, et il essaye de redonner un sens à la vie de cet homme. Hein, le géant essaye de redonner un sens à la vie de cet homme, et il le secoue, et il réussit tout de même à le réamorcer et il réussit à le reconstruire. Et la fin du livre, c'est typiquement américain, est très positive. Évidemment, il redémarre dans la vie en ayant retrouvé une femme. Enfin bon,
Ça se
termine bien et je trouve que c'est une qualité. C'est mieux que beaucoup de livres qui se terminent mal.
Eh bien, un grand merci. Je crois que c'est un livre que vous pourrez offrir à vos amis parce que... dans ce fou de New York, on retrouve l'amour, la mémoire, l'art, l'amitié, et grâce à tout cela, eh bien, la renaissance de la vie en quelque sorte. Merci Claude Casal.
Merci Christiane Blain. Chemin perdu, vous n'êtes plus.